Bon, vous connaissez le docteur Amir Kadir, ancien député de Québec solidaire pour le comté de Mercier. Docteur Kadir est aussi médecin, microbiologiste, infectiologue. On lui a parlé hier, on va lui reparler immédiatement parce qu'aujourd'hui, conférence de presse de François Legault, Horacio Arruda, Daniel Mécan, Marguerite Blais, qui ont fait le point sur la situation au Québec et sur les nouvelles mesures mises en place pour contrer la propagation du virus. Qu'en pense le microbiologiste et infectiologue qui est Amir Kadir? Amir Kadir, salut!
Bonjour Patrick.
Donc, le gouvernement a annoncé que les rassemblements de 250 personnes et plus sont annulés. On suggère l'auto-quarantaine si on est allé en voyage, notamment aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures-là?
Ça peut paraître un peu sévère, mais je pense que c'est vraiment ce qu'il fallait faire. J'aurais souhaité qu'il y a déjà deux semaines, par exemple, les autorités fédérales en fassent un peu plus aux portes d'entrée. Je pense qu'on en a parlé hier, les oui. mesures de contrôle. Maintenant, bon, on est rendu un peu ailleurs. On voit déjà dans la croissance des chiffres, ça paraît petit, mais c'est indicatif de la capacité de cette maladie-là à se propager facilement. On est passé de 4 cas identifiés hier à 13. Ça montre que ça a une capacité de propagation assez importante. Donc, il faut prendre des mesures pendant qu'il en est temps, pendant qu'on n'est pas débordé, maintenant qu'on peut agir de manière, je dirais, réfléchie, puis de sang-froid, plutôt que de laisser l'infection déborder toutes nos capacités, et puis là, se dire, ben là, on arrête tout, on ferme les frontières, on met tout le monde en quarantaine, comme l'Italie, malheureusement, a été prise à le faire avec... Bon, mais je pense qu'on apprend bien de l'Italie. Vraiment, il faut essayer par tous les moyens, et quitte à prêcher un peu par excès, de briser la chaîne de transmission, de briser cette capacité qu'a la bactérie, le virus, de se propager facilement. Et ça, il n'y a pas d'autre manière que de faire ce qu'on disait hier, hein, la distanciation sociale. Donc, quand on dit pas des rassemblements de 250, c'est parce qu'on veut éviter qu'il y ait trop de monde en contact avec trop de monde, ce qui accroît le risque statistique qu'il y ait des gens qui soient infectés dans ça, qui s'infectent les uns les autres. Et le fait de mettre les gens en quarantaine, bien, c'est le minimum aussi, parce que dans le fond, le risque de cette contagion vient surtout de pays, de zones dans le monde ou d'activités comme les croisières où le virus est beaucoup propagé. Donc, en mettant ces gens-là en quarantaine, on assure une distanciation appropriée. Oui. Par rapport au premier risque de l'infection.
Je reçois, Amir Kadir, je reçois beaucoup de demandes de parents qui se demandent si les rassemblements de 250 personnes et plus sont suspendus, comment se fait-il que l'école... les activités des écoles québécoises ne soient pas suspendues?
Bien, à terme, ça se peut qu'on ait besoin de ça, mais c'est parce que l'incidence actuellement, dans la population en général, est encore assez faible pour qu'on s'en tienne à cette mesure-là. On espère donc qu'avec ces mesures qui sont quand même assez coercitives, il y a une mairesse, par exemple, de la région de Montréal qui va être obligée de rester chez elle. Elle revient de voyage. Il y a peut-être un animateur de radio, outre celle que vous avez mentionnée. Donc, on fait déjà beaucoup. Les enfants, vous le savez, dans cette statistique, dans ce qu'on connaît déjà de la maladie, en plus, sont moins à risque de complications graves. Est-ce qu'ils sont à risque d'être des vecteurs de transmission? Certes, mais c'est des étapes qui vont venir ultérieurement. Je pense que, justement, pour faire les choses dans l'ordre, je dirais pas de manière chaotique et d'une manière qui soit pas pratique, bon, on commence à faire qui est le plus facile à faire et qui a le plus d'impact. Ensuite, on y va étape par étape, donc ça se peut que la semaine prochaine, si on voit que les menaces sont trop grandes, on passe à l'autre étape.
OK. Le président Trump, hier, a surpris le monde en annonçant que les vols en provenance d'Europe allaient être interdits aux États-Unis. Tout le monde a son opinion là-dessus. Il y a des gens qui voudraient voir le Canada imiter la décision du gouvernement américain. D'un point de vue scientifique, est-ce que c'est utile de faire ça?
C'est que je crois que le gouvernement américain est devant une situation plus grave que le nôtre au Canada. D'abord parce que, à cause de la fréquence des voyages à l'extérieur et de leur proximité, la grande concentration de certaines, disons, citoyens d'origine asiatique, ils ont commencé à avoir le problème en plus grand nombre au début. Et avant qu'on connaisse assez bien la dynamique de la maladie, donc d'instituer une série de choses, ça s'est propagé davantage qu'ici. Une raison. L'autre, c'est qu'ils n'ont pas le même système de santé que nous.
C'est vrai.
Moi, je craindrais aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'assurance. En plus, ils n'ont pas les mesures de protection sociale et de normes du travail qui fait que, ici, par exemple, au Canada, au Québec, les gens ont une marge de manœuvre pour ne pas aller au travail, de se mettre en quarantaine. Là-bas, il n'y a pas tout ça. Donc, il y a une pression extrême pour que celui qui a des symptômes dise, oh, dans le fond, c'est rien, je vais aller travailler parce que je vais prendre un salaire. Et en plus, le système de santé, comme je vous ai dit, laisse en quelque sorte à l'abandon bon nombre d'Américains. Ce qui fait qu'ils ont plus de problèmes que nous, donc ils doivent agir avec plus de, je dirais, des mesures plus sévères encore que nous.
On parle avec Amir Kadir, vous le connaissez, l'ancien député solidaire de Mercier, mais aussi médecin, microbiologiste, infectiologue. Amir, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas normal que des gens qui reviennent d'Italie, précisément d'Italie, des vols directs qui débarquent à Montréal, ne soient pas testés. Est-ce que ça, d'un point de vue scientifique, ce serait utile ou c'est la chose à faire que de les laisser revenir et se mettre en quarantaine?
Je suis désolé de le dire, je veux pas blâmer personne. J'imagine qu'il y a quelque chose, un concept qui a fait qu'on n'a pas agi plus tôt, mais il me semble que ça fait au moins 10 jours, si ce n'est pas 2 semaines, qu'aux aéroports, il doit y avoir au minimum de mesures, de contrôle, c'est-à-dire questionnaire serré des gens, d'où ils viennent, s'ils ont des symptômes, et s'ils ont des symptômes, les diriger immédiatement pour être diagnostiqués. S'ils n'ont pas de symptômes, de leur dire quoi faire à la survenue des premiers symptômes et de les mettre en lien avec des sources d'informations fiables, par exemple le département de santé publique, pour recevoir des courriels tous les jours, savoir à cette étape-ci, si vous arrive quelque chose, quoi faire. Bref, c'est ce qui aurait dû être institué par le gouvernement fédéral déjà il y a 2 semaines. Ce qui me fâche aujourd'hui, ce qui me permet de le dire plus librement que j'aurais fait il y a quelques jours, j'ai appris hier soir qu'un citoyen canadien ayant été sur une croisière en Floride est revenu dimanche. Aucune question à l'aéroport. Aucune question.
Ça, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue américain, de propagation du virus, c'est stupide.
Ben, c'est stupide parce que déjà vendredi, c'est-à-dire 3 jours avant, nous avions reçu de la Direction de santé publique du Québec qui ont bien identifié le risque. Ils nous ont dit, si vous avez des patients qui viennent, il ne faut pas se limiter aux 6 pays. Vous vous rappelez des 6 pays oui. Initiaux? Je ne reviendrai pas là-dessus. Il faut étendre la définition plus large. Il y a d'autres zones, comme les croisières, mais aussi en Europe, qui sont à risque. Donc, il faut un jugement clinique. Et s'il y a des gens qui ont des symptômes, il faut les dépister. Donc, ça, on le connaît au moins depuis la fin de la semaine dernière. Et on l'applique, nous, dans les hôpitaux. Moi, je me suis tapé 3, dépistages juste à cause de ça, parce que c'était des gens qui avaient été dans des zones fréquentées par des croisières. Comment ça se fait qu'à l'aéroport, on n'a pas un personnel qui mène ce questionnaire-là et qui n'envoie pas dans un couloir de service particulier ceux qui viennent d'Italie, de France, d'Allemagne maintenant, d'Espagne et des croisières?
OK. Parlons du 8-1. Le gouvernement nous dit voici l'ordre des choses. Si vous soupçonnez que vous avez des symptômes, appelez au 811 et quelqu'un va répondre, quelqu'un va écouter ce que vous allez raconter comme symptômes et on va vous dire d'aller dans une des cliniques de dépistage. Il y en a 3. Il y en a 3 au Québec présentement. Ce qu'on me dit à Mercadier, c'est que l'attente est interminable. Notre collègue, là, Catherine Beauchamp, notre chroniqueuse au spectacle, était sur la ligne depuis 14 heures. On vient d'apprendre que la ligne a coupé et elle est plus capable d'avoir de même se mettre en attente au 8-1. Est-ce que c'est normal, ça?
Je suis désolé d'apprendre. Non, vraisemblablement. J'espère qu'aujourd'hui, dans le train de mesures annoncé par la ministre et le premier ministre, on a prévu de multiplier les ressources au 8-1 parce que, dans le fond, c'est le goulot d'étranglement. Si l'attente est trop longue, et pour bien des gens qui sont paniqués, et je peux les comprendre, s'il y a vraiment des facteurs de risque importants, ils se disent, dès que j'ai l'idée que je peux avoir ça, il faut que je consulte. Donc, ils se fient sur le 811. Donc, si ça prend trop de temps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans les cliniques, ils vont aller dans les hôpitaux. Et là, on va commettre l'erreur d'Italie, parce que c'est à travers les endroits où des gens vulnérables, avec des gens à risque, et qui sont possiblement contaminés, qui se côtoient les uns des autres, que s'est propagé l'essentiel de l'épidémie en Italie. Donc, il faut absolument éviter cette situation. Donc, le 811 devient un instrument excessivement efficace s'il y a suffisamment de ressources. Il faut qu'en quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, dans un délai raisonnable, il y a une réponse. Et là, le 811 pose des séries de questions. Si les gens viennent de zones à risque et ont des symptômes, on les réfère aux cliniques désignées pour faire le dépistage.
Est-ce que 3 cliniques de dépistage pour l'instant, est-ce que c'est suffisant?
Ben, je crois que le ministère a fait la réflexion depuis les 2 jours que ça a été annoncé, les 2 ou 3 jours que ça a été annoncé. Il y a maintenant, en tout cas, l'Association des microbiologistes du Québec a fait une recommandation au ministère ce matin même qu'on déploie plus de ressources diagnostiques, donc qu'on ne se contente pas des 3 cliniques, qu'il y ait sur l'ensemble du territoire, parce qu'on comprend bien que nos concitoyens sont voyagent de partout au Québec. Mmh. Il n'y a pas juste des gens de Montréal
Évidemment.
Ou des grands centres. Hein. De partout au Québec, il y a des gens. Donc, il faut qu'il y ait des centres. Et nous avons les capacités de les... On craignait au départ que le niveau de sécurité, de biosécurité nécessaire au traitement ou à la manipulation des échantillons cliniques serait tel qu'il faut les concentrer. On s'est aperçu que non. Nos méthodes habituelles dans les grands centres où on a, par exemple, on fait le test d'influenza, on est capable de faire le test de COVID également. Donc maintenant, il faut décentraliser les moyens de diagnostic pour qu'on puisse rencontrer la demande et qu'on évite justement que les gens aillent dans n'importe quel hôpital ou n'importe quelle clinique. Que partout, les gens aient accès facilement à un plus grand nombre de centres pour faire le dépistage.
On a même vu à l'étranger, aux États-Unis, on a vu ça au Danemark. Il y a un Québécois qui habite au Danemark qui nous parlait il y a une demi-heure de clinique de dépistage sur le mode service à l'auto. Est-ce que ça
C'est
serait
parfait.
Possible?
C'est excellent. Oui, c'est très possible, absolument. Ça se fait aussi maintenant dans l'État de Washington. Je pense que l'université de Stanford aussi est en train d'envisager ça pour son personnel. Donc, le personnel médical, infirmières, médecins, techniciens de labo, en nombre suffisant, se tiennent dans des espèces de passages. Ça peut être monté rapidement là, avec des tentes. Et les gens passent dans leur auto, sont confinés dans leur propre espace. C'est mieux si on n'est pas en lien avec d'autres. On leur fait faire des tests, puis on les retrace ainsi. C'est beaucoup plus simple et logique.
Savez-vous s'il y a des plans pour qu'au Québec, on ait des cliniques de type service à l'auto de dépistage de COVID-19?
C'est le genre de proposition qui, justement, a été fait par l'Association des microbiologistes ce matin même. Donc, puis moi, j'ai senti de la part du ministère énormément d'ouverture par rapport à tout ça.
Très bien. Merci beaucoup, Amir Kadir.
Merci beaucoup, Patrick, et à bientôt.
Merci, à bientôt. Amir Kadir, vous le connaissez, ex-député, de Québec solidaire, médecin, microbiologiste, infectiologue là-dessus. On va prendre une toute petite pause au retour. On va parler avec Martin McGuire et Philippe Quentin.